France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Irène Frein. J'ai eu la chance de lire en avant-première L'Or de la Nuit. Je ne connaissais pas l'histoire d'Antoine Galland et n'avais que des images assez floues des contes des Mille et Une Nuits à part Scheherazade et son imaginaire. Et j'ai eu l'impression de lire un conte dans un conte finalement.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Mille et une nuits, et une nuit, et une nuit, et une nuit. Au programme de votre book club cet après-midi, dans son dernier roman, Irène Frein nous fait vivre l'aventure de la composition de ce grand livre. Au tout début du XVIIIe siècle, Antoine Galland, voyageur, poète et orientaliste français, découvre le manuscrit anonyme d'un premier conte où figure Simbad le marin. Puis d'autres manuscrits où apparaît la figure de Scheherazade. Il les traduit depuis l'arabe, brode aussi. Le succès est immédiat auprès du public français. On en redemande, il va falloir rajouter des nuits aux nuits, des contes aux contes. Irène Frein est notre invitée pour son livre sur l'enchantement du monde par la littérature et sa féminisation, peut-être aussi. Comme chaque semaine, nous retrouverons ensuite Mathilde Wagman, attentive aux parutions destinées à notre lectorat le plus jeune aujourd'hui. Un album signé Beatrice Alemania, qui parle de la colère. Et en fin d'émission, on joue à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour 1001 heures, ou presque. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Irène Frein.
Bonjour.
Votre livre L'Or de la Nuit sort tout juste aux éditions Julliard. On est ravis de vous recevoir ici dans le Book Club. On y viendra évidemment à ce livre, il sera au cœur de notre conversation tout à l'heure. Mais ici, tout commence par un questionnaire lecture. On fait connaissance avec nos invités, voilà, grâce aux lectures, aux livres qu'ils ou elles ont trouvés sur leur chemin. Il se trouve que des scènes de bibliothèque, des scènes de récit évidemment, des scènes de nuit à lire, à écrire, il y en a plein dans L'Or de la Nuit. On peut imaginer que c'est un livre qui vibre lui-même de ce que c'est la lecture, de ce que ça fait la lecture, à l'existence et au monde, parce que ce n'est pas que la manière dont ça fait vibrer un ou plusieurs corps, mais aussi comme ça peut faire bouger les lignes d'une société entière, on y viendra. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez découvert justement cette sorte de pouvoir magique que vous prêtez au texte et au livre dans votre roman L'Or de la Nuit?
Je m'en souviens très bien, et j'ai ce livre dans une édition Gautier-Langros pour les enfants, avec des illustrations qui étaient complètement dingues et surréalistes. C'est Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, la lecture, l'écriture aussi d'ailleurs, c'est tomber dans un terrier comme Alice. Je ne sais pas si c'est exactement dans le texte, mais il y avait une illustration où on voyait Alice qui descendait, qui était emportée dans le puits qui était tapissé de livres jusqu'au moment où elle atterrit au fond de...
Oui, je vois l'image, ouais.
Voilà, de ce Wonderland. Et je relis au moins une fois par an Alice au Pays des Merveilles. C'est pour moi cette espèce de... La lecture, cette télétransportation, et quand je l'ai découvert dans ce livre, ben il a été définitif pour moi ce livre.
Vous vous souvenez de l'âge où vous découvrez Alice au Pays des Merveilles ?
Je pense 8 ans. Je pense que c'est un cadeau d'anniversaire.
Ah.
Et je connais pas. Moi, je suis dans un milieu très très modeste, très simple.
Il y a des livres chez vous pour autant ?
Alors, il y a deux choses. C'est que à 7 ans, on paye la carte de bibliothèque. C'est une sorte de rituel. Il y a des livres parce que ma sœur aînée, Denise, est institutrice et commence ses études de professeur à Rennes. Et elle rapporte toutes sortes de livres. Et je pourrais vous citer déjà les livres qui étaient dans son cosy où j'avais le... Enfin, le cosy, c'était un meuble à l'époque, confortable. Mais vous voyez, un des pans du livre.
Du meuble, ouais.
Oui, du meuble. Contenait des bibliothèques un peu... Là, c'était vitré. Et donc, avant de m'endormir, on nous collait très tôt au lit. Moi, pour moi, c'était 8 heures à la maison. J'ai pas envie de dormir. Et je regardais les livres. Et je me souviens d'avoir vu des Pléiades, parce qu'elle en avait acheté avec son salaire d'institutrice. Et je vois l'un d'entre eux à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc, à 8 ans, ça m'intrigue. Je l'enlève, je l'ouvre, c'était très troublant ce papier Bible, c'était comme le missel à l'église, et je commence à lire, longtemps je me suis couchée de bonne heure, je continue, je m'accroche, Et je referme en me disant, je ne serai jamais Denise, je ne serai jamais ma grande sœur. Mmh. Il y avait aussi, je me souviens...
Parce que vous n'êtes pas accrochée par la phrase de Marcel Proust,
parce que j'y comprends rien à 8 ans.
Bien sûr.
Et puis que moi, je suis habituée à lire des livres avec des images quand même. Un gamin de 8 ans, il voit même l'objet livre Pléiade, c'est très effrayant. Mmh. Et ce modèle... qu'était Denise dans la famille, cet idéal, cette souveraineté de cette fille aînée d'un... Mon père, quand même, était issu de la Bretagne très miséreuse, du centre-Bretagne, où il avait, comme il l'avait dit, désappris le français qu'on lui avait appris à l'école quand il avait été placé comme garçon bon à tout faire dans le grenier d'une porcherie granite, vous voyez, et qui était parti à la ville et qui est arrivé dans la ville de Lorient sur la côte, comprend rien. D'abord parce que le breton n'est pas le même, c'est un autre breton. Et le français, il l'a désappris, comme il l'avait dit. Et il m'avait dit cette phrase magnifique, j'ai réappris le français avec l'argent de ma première paye, j'ai acheté une grammaire française. Ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il avait aussi acheté une grammaire de breton vannetais. Et j'ai appris en écoutant les gens. Il avait 15 ans. Donc, si vous voulez...
Mais avec en se disant que c'était comme ça qu'il allait s'en sortir, c'est-à-dire en réapprenant le français.
Il a fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Contre toute sa chambrée en stalag, il a décidé d'apprendre l'allemand. Il a demandé à ma mère d'envoyer des grammaires. Le rôle de la grammaire, parce qu'il avait, et les autres étaient pas d'accord.
Presque un passeport pour la survie.
Oui,
dans les deux
cas. Il leur a dit, et j'ai découvert que c'était le même finalement, dans son niveau, la même démarche que Nelson Mandela, apprendre la langue de l'ennemi. Mmh. Et d'ailleurs, il est devenu l'interprète. Et c'est aussi comme ça qu'il a facilité, sa survie, sa sortie d'Allemagne et celle des autres, qui comptait pour lui beaucoup. Et donc, il parlait une langue magnifique.
J'allais vous demander, Irène Frein, quelle était la trace de ces deux expériences fondatrices et si puissantes dans la manière dont il vous a, votre père, transmis le rapport au texte, à la langue.
Que la langue, c'était la tenue. Et que il fallait la maîtriser pour pouvoir être intégré à la société, la société des dominants. La société, évidemment, des puissants, si vous voulez, il fallait la maîtriser presque mieux qu'eux. Mmh. Et alors, le pendant, évidemment, c'est que à ce moment-là, la langue bretonne était la langue interdite. Et ils ne voulaient pas qu'on soit humilié à cause de la... Donc, on ne nous parlait pas breton, et c'est mon grand regret, parce qu'être bilingue, c'est une grande force. Et c'est pour ça que j'ai toujours soutenu les écoles diwan en Bretagne.
Où on apprend la langue bretonne aux enfants.
Et on passe au bac.
Et on en revient à ce cosy de votre grande sœur Denise, donc un peu de la Pléiade de Proust que vous sortez, Irène Frein, l'émerveillement qui a précédé de votre lecture de Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles. Donc vous découvrez qu'on peut comme ça tomber dans un trou noir merveilleux et être comme absorbé dans un tunnel de livres. Comment ça se poursuit pour vous, l'aventure de la lecture?
C'est-à-dire que j'étais isolée dans ma famille parce que ma mère... était une mère rejetante. J'ai raconté ça dans La fille à histoire et j'avais pas ma place, donc j'écoutais pour comprendre comment aussi gagner ma place. Donc j'entendais parler des lectures de Denise, qui d'ailleurs était une fille bienveillante, des lectures de ma mère aussi. Ma mère avait
qui lu... en parlait volontiers
avec mon autre sœur. J'étais exclue de la conversation, donc quand mon père n'était pas là, j'avais aucune chance de rentrer dans la conversation. Mais je me disais que c'était une clé. Et puis aussi, à l'école, on faisait lire. Et comme ça, je me souviens de deux événements. Celui-là, j'étais petite. Ma mère qui attendait le soir qu'arrive la liberté du Morbihan pour lire les avis de décès. C'est toujours à 5 heures. Et... Je l'entends brusquement s'écrier dans la cour, Colette est morte, et ils l'ont même pas laissé rentrer à l'Académie française. Et moi, Colette, je me dis, mais c'est quelqu'un du village, la famille,
oui, de la famille,
de la famille dont on m'a jamais parlé. J'arrive, elle me dit, mais c'est Colette, c'est un grand écrivain. Et je te dis, ils n'ont pas laissé rentrer à l'Académie française. Alors j'ai vérifié après, moi j'avais le souvenir que c'était 4 ans, et c'était vraiment 4 ans. Et une autre soir, beaucoup plus tard, je pense que c'était 60, un grand drame encore entre ma sœur qui arrive avec la nouvelle que Camus est mort. Moi, je sais pas qui c'est Camus. Et donc, je me souviens avoir entrouvert la porte de la cuisine, m'être levée de mon lit, parce qu'on m'avait déjà couché, enfin, c'était un peu débarrasser le plancher. Moi, j'étais un peu l'intruse, mais bon, c'était pas... Moi, je me débrouillais avec mes bouquins, ma petite vie, j'imaginais des tas de choses, on en reparlera peut-être toujours. Et j'ai entendu parler de la mort de Camus. Et tout était comme ça. Et Denise, elle appelait...
Des mots de code, un peu codés,
oui, mais alors je prenais tout ce que je pouvais. Et dans le cosy, il y avait, par exemple, Zola. Il y avait Simenon. Il y avait aussi un livre, dirons-nous, qu'on appellerait aujourd'hui de New Romance, je sais pas ce qu'il foutait là. Il y avait l'Atlantide, les livres de poche. Alors, ça me fascinait parce que c'était une femme avec des blagues, avec des seins magnifiques, pour l'Atlantide de Pierre Benoît, qui est un livre qu'on lit plus maintenant, mais c'était très, très coté à l'époque. Et moi, ça me faisait rêver. Donc, j'avais lu, peut-être à 10 ans, l'Atlantide, enfin, très mystérieux. L'Atlantide était en Afrique subsaharienne. Vous voyez, avec des espèces de princesses black, extraordinaires. Ouais. Enfin bon, bref, des choses comme ça. Donc j'étais très avide. Alors quand ce que je lisais mes sœurs plus tard à l'adolescence, je le lisais. Et comme ma deuxième sœur lisait beaucoup de littérature anglaise, par exemple, ben, j'ai lu après elle, mais j'ai lu très tôt. Donc
Avez lu quoi ?
Alors je me suis passionnée pour Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. J'ai lu comme ça Durrell. J'ai même mis vers 16 ans le nez dans Henry Miller, parce que c'était tout le rayonnage de la Bibliothèque municipale de Lorient. Etc. Et j'ai lu, et après, il y a eu évidemment les profs. Et donc, je me suis passionnée à 16 ans pour des livres que j'appellerais des livres de la fatalité de la route, ce qui est du chemin, ce qui est le propre du roman.
Donc mais comme quoi, par exemple, Kerouac?
Alors, j'ai lu, non, parce que on lisait pas Kerouac encore à l'époque, on lisait ça à Paris, mais nous, ça avait pas encore atteint l'Orient, vous savez, c'était, mais j'ai lu, par exemple, Don Juan, avec un prof qui nous avait bien expliqué le rôle de la singularité de cette pièce qui se passe sur la route, et de l'aventure, Jacques le Fataliste, qui m'a emballé complètement, évidemment Don Quichotte, et sur la fatalité, je me suis passionnée pour Racine, parce que les gens sont coincés complètement, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils se démènent et comme dans les pièces de Racine, etc. Et puis aussi en Grèce, on nous faisait lire, une prof nous a fait lire une pièce comme Électre, mais enfin à titre linguistique, si vous voulez, mais elle nous l'a bien fait vivre, et je me suis passionnée pour Électre avec sa haine de sa mère, évidemment. Et aussi cette fatalité des destins qui est résolue à la fin par l'intervention d'Athéna qui invente la justice.
Mais vous cherchiez quelque chose de précis, Irène Frein, vous dites ça avec un grand sourire, très consciente de ce qui pouvait se jouer comme mécanisme de miroir, de résolution.
Oui, je crois que j'étais une petite fille grave et triste, malgré tout, parce que cet isolement en dehors de mon père. Et je cherchais du lien partout. J'en cherchais à l'école, j'en cherchais dans l'enseignement des profs. Et on avait des profs magnifiques. Et je me disais, il y a un secret qui me permettra de partir. Alors, je me souviens que c'était ça pour moi, les livres. C'était que j'allais lire beaucoup au grenier. Dans ces bouts de maison bretonne, il y avait des greniers, des vieux. J'étais sur un édredon qui sentait la balle d'avoine. Et j'y vivais dans ce grenier. Je m'installais j'allais plus dans ma chambre, pour dormir. Je descendais pour les repas. Et ça arrangeait tout le monde. Encore une fois, sauf mon père qui s'en inquiétait un peu. Et là, il y avait des tas de livres au grenier. Et je prenais tout ce qui tombait sous la main, y compris ce qu'il avait lu, lui, pendant la guerre, pour s'instruire. C'est comme ça que j'ai lu La bonne chanson de Verlaine, Les Diaboliques. Ces bouquins, et puis j'en montais d'autres de la bibliothèque, je dévorais, et je me mettais à la lucarne, et je regardais l'Est, c'était très curieux, Et c'est une ville de la Compagnie des Indes, au départ. L'Orient, c'est avec une apostrophe, hein, la fondation.
Oui, j'ai appris ça, figurez-vous, pour préparer cette émission, que l'Orient, c'était d'abord un L apostrophe Orient.
Je me disais, je partirais. Et c'était, et en même temps, je me disais que dans mon milieu social, j'avais pas de chance de partir, sauf, alors vous allez rire, si je devenais prof, parce que je serais nommée ailleurs. Alors j'avais des grands rêves de l'ailleurs. Et alors l'ailleurs pour moi, c'était une île dans la rade de l'Orient, où j'aurais voulu partir à la nage, vous voyez.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui. Ou aller à Rennes, comme ma sœur. Et puis, bon, bah c'est... j'ai réalisé ce rêve. Et mais d'abord, c'était dans les livres, l'ailleurs. J'étais télétransportée. Et donc, j'ai commencé à griffonner des choses. Mais bon, j'avais une sœur qui volait et détruisait les trucs. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire des lettres à mes copines. Et certaines, paraît-il, les ont conservées. Et... je racontais ma vie, je devais romancer ma vie parce qu'il s'y passait strictement rien, mais j'avais déjà un certain don pour de petites choses insignifiantes, faire des trucs comme ça. Et donc la lecture pour moi est
intrinsèquement lié de votre
vie. Et puis après, bien entendu, dans ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont fait découvrir des livres aussi. Moi, je me souviens qu'à 28 ans, c'était un grand poète breton, Marc Le Gros de Quimper, qui m'a fait découvrir Julien Gracq, que j'ai rencontré par la suite d'ailleurs. Ou bien j'ai découvrir les poètes latins à la Sorbonne, les poètes contestataires de l'époque augustéenne qui inventaient déjà Peace and Love. Alors c'était un écho à la guerre du Vietnam, des choses comme ça. Apollinaire, Baudelaire que j'ai adoré, que je relis pour l'exigence de la forme. Et enfin, j'aimais beaucoup les romans en abîme. Et le livre est un peu par moments...
Bah, c'est ce que j'allais dire,
Il y avait notamment Huxley, un des livres d'Huxley qu'on ne lit plus, comme Marina d'Ivezza, qui était des romans en abîme, et j'ai adoré les Faux Monnayeurs. Et quand je les ai relus, il y a peu de temps, j'ai trouvé ça complètement désuet.
On va parler de votre livre à vous, Irène Frein, L'or de la nuit, juste après cette chanson, rebricolée par nous pour l'occasion. C'est une chanson de Christine and the Queens, parue sur l'album Chaleur humaine en 2014. L'artiste y énumère les nuits marquantes d'un amour perdu, des nuits tendres ou des nuits terribles. Elles vont de la nuit 17 à la nuit 52.
Formidable.
La nuit 53, elle est haïe. Et le nombre, dit toujours les paroles, lutte contre l'oubli.
Nuit 17 à 22, nous étions là. Toi allongée, déliée dans le mont froid. Toi allongée, déliée dans le mont froid. Moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la voix. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. Hey, yeah, yeah. I want it open. Ce que dit open. Que dit open so you could see through it. Avide des vents qui venaient disperser. Avide des vents qui venaient disperser. Trente, sa parfaite obscurité est ta revanche. Au petit matin, c'est l'horizon qui penche. Au petit matin, c'est l'horizon. Say no.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On réclame la suite aujourd'hui dans votre book club. On ne veut pas dormir, on veut encore des histoires et encore des histoires et encore des histoires, nuit après nuit. Parce que ça réchauffe du grand hiver, parce que c'est exaltant, parce que ça fait rêver et bouger les lignes de nos vies. Dans votre dernier roman, Irène Frein, l'on suit la genèse fascinante des mille et une nuits à l'aube du XVIIIe siècle, après avoir découvert un premier manuscrit, puis quatre de contes anonymes rédigés en arabe. Antoine Galland, poète, voyageur, orientaliste, se met à le traduire. Sauf que traduire, et là je vous cite, n'était pas le mot exact. Il traduisait brodait, traduisait ornementait, traduisait inventait, coupait ici, allongeait là, sans scrupule. Il avait oublié ce qu'était le scrupule. Le rêveur en lui avait fait taire le savant. Il s'agit pour cet homme, obsédé, insomniaque, ivre de récits, il s'agit, tout en fréquentant la cour versaillaise, pour lui de révolutionner l'art du récit, de contourner la censure, de faire rêver autrement ses contemporains, bref, ni plus ni moins, de réenchanter le monde.
La nuit, lorsqu'elle fut venue, s'était montrée sous son meilleur visage. Douce, hospitalière, toute promesse, la paix, la mère nuit. La nuit se plaisait dans la chambre, on aurait dit. Elle en avait fait sa tanière, comme l'homme assis devant sa table, qui consultait des livres, puis se penchait au-dessus d'un carnet où il consignait des notes, d'une plume patiente, légère, un travail qui semblait réglé par une ordonnance aussi souveraine qu'au fond du ciel, le cours des planètes. L'homme et la nuit faisaient corps. Rien ne pourrait les séparer. Pas même le jour quand il viendrait. Il ne serait que la suite affadie de ces heures immobiles et fécondes.
On vient d'entendre dans la voix de Léa Weisgruss le début de votre roman, Irène Frein, L'or de la nuit, paru aux éditions Julliard. La nuit qui est une véritable matière que vous modelez dans ce texte-là, qui est presque un personnage. C'est une nuit très matricielle au départ. Vous utilisez cela comme étant vraiment le début de tout. Comment est-ce que vous avez instauré cette ambiance-là? On va venir à la manière dont votre roman dépeint l'époque, voilà, tout début du 18e, la cour. Mais il y a cette ambiance nocturne. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ça?
La nuit, c'est le cœur de nos vies. Nous passons beaucoup de temps à dormir. Et je pense que nos vies s'écrivent dans notre inconscient. Et la nuit est double. La nuit, elle est le lieu du tourment, de nos cauchemars. Et la nuit est aussi la nuit de nos réparations. La nuit, c'est aussi l'insomnie. L'insomnie qui peut être dévoratrice aussi bien que créative. Et nous savons bien que si nous ne savons pas que faire de nos nuits peuvent nous détruire et elles peuvent être aussi le lieu de tous les grands imaginaires. Et c'est la nuit est le lieu du danger parce que nous sommes abandonnés à l'obscur. Et je pense que c'est de la nuit qu'est née la littérature. C'est-à-dire, on est dans...
Comme pour y répondre, pour répondre
ah
à
oui,
la nuit.
Il faut conjurer la nuit et ses peurs. Peur du lendemain, est-ce que le soleil va se lever? Sans doute dans les temps archaïques. Que va nous apporter le jour prochain? Ça, c'est... Tous ceux qui nous écoutent le savent. Nuit de la maladie, nuit de l'horreur... Donc, la nuit incite, curieusement, elle qui est immobile et muette. Elle réclame la parole. Et donc, ces paroles étaient, dans les grands groupes humains, proférées. C'est souvent des récits des origines, dans tous les grands groupes. Le conteur disait d'où on venait, et ça permettait de donner une direction pour le jour qui vient, ou, là où rôde dehors les bruits des bêtes, la menace des guerres et des maladies. Donc la nuit, c'est la mort, mais elle est double. Elle est double parce qu'elle nous promet le jour. Et plus encore, quelquefois, avec les étoiles qui nous regardent, l'éternité.
Oui, d'ailleurs, c'est dans une nuit qu'on rencontre votre personnage principal, Antoine Galland, cet homme qui va donc traduire, broder les mille et une nuits, composer ce texte incroyable. On le rencontre dans l'angoisse.
Oui.
Il est revisité par un tremblement de terre, à la fois un tremblement de terre psychique et réel, puisqu'il a été enseveli sous des gravats 20 ans plus tôt.
Oui.
Je pense que c'est intéressant de s'arrêter, Irène Frein, sur ce détail que vous placez au début de notre rencontre avec ce personnage si important pour les
millénaires. Parce que justement, il est traversé assez souvent par ce qu'on peut appeler un stress
post-traumatique.
Ouais. Ce tremblement de terre a eu lieu. Hein. Il a vécu
à Smyrne.
Il a tout perdu. Et sur le coup du désespoir, il est rentré en Europe, n'est jamais revenu en Orient. Et là où il avait été heureux, il avait fait plusieurs séjours très très fructueux comme collectionneur, enfin découvreur d'antiquités pour les puissants du royaume de Louis XIV. Et donc,
il est revisité par
ces revisitations sont capitales pour tous les créateurs, quels qu'ils soient peintres, musiciens, artistes. Nous avons eu des scénismes, des grandes fractures dans nos vies mais en même temps, nous pouvons, nous sommes habités aussi de rêves qui sont des rêves de transformation, de rédemption, de résurrection.
Oui, vous avez parlé des nuits des réparations, mais d'ailleurs, il y a un mot que vous n'avez pas cité, c'est-à-dire que là où s'écrivent aussi les nuits lors de la nuit, c'est des nuits des amants ou des amitiés ou des mains dans la main ou même des lectures.
Des fantasmes.
Il y a des
lectures, tout ça, c'est une espèce de grande lessiveuse extraordinaire, notre inconscient, nos rêves, les portes de corne et d'ivoire dont qu'on passe et dont parlait Nerval, qui était une de mes grandes lectures aussi. Et j'ai voulu faire en sorte que le lecteur fasse corps, non seulement avec la nuit, mais à ce que peut être la création littéraire.
Et c'est pour ça que vous donnez tellement cher à cet homme qu'on connaît assez peu, en tout cas dans l'imaginaire, on va dire, culturel général. Les mille et une nuits sont très rarement rattachées à un homme français qui traduit, réinvente, recompose, réagence. Cet Antoine Galland qu'on rencontre dans votre roman, donc au tout début du 17e. Rapidement, qui est-il et pourquoi lui est consacré un livre, Irène Frein, aujourd'hui?
Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est comme mon père a sorti de rien. Une naissance dans la misère totale d'un minuscule village picard, et même après Annemoyon, même si c'est une ville plus riche, il va connaître la famine et sa mère est miséreuse, il n'y a plus de père. Et c'est parce qu'il est très doué qu'il est remarqué par un chanoine qui va faire des études à Paris. Il est hyper doué, quoi. C'est comme un potentiel exceptionnel, je ne sais plus
comment.
Voilà. Et donc, il va très vite monter à la ville. Il va éduquer les enfants de la haute noblesse en latin avec la méthode douce qui était inconnue à l'époque. Et c'est un homme doux et bon et très curieux de tout. Et donc, il va être envoyé en Orient. Donc, il va vivre à l'ambassade de Constantinople et là-bas, être chargé de récolter des objets rares, comme je vous l'ai dit, pour des gens comme Colbert, par exemple, ou des gens du cercle de la Maintenon. Et si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est à quel point les gens qui ont travaillé sur Galland, les érudits, les savants, l'aiment à travers les siècles. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent Galland continuent de l'aimer. Et j'étais allée à la presse.
Ça tient à quoi ?
Alors, ça tient à ce qu'il a un charisme dans tous ses actes, je ne sais pas, une sorte de magie qui a traversé les siècles. J'étais allée à Lima, après avoir fini mon livre, il était sous presse.
L'Institut Monde Arabe.
Du Monde Arabe. Pour, en me disant, bon, mettant dans un petit coin d'une conférence faite par trois spécialistes, donc Aboubakar Shraibi, qui est le grand spécialiste, et une autre spécialiste des contes, Emmanuel Samper, en me disant, bon, j'ai certainement fait des bêtises, mais j'étais comme une petite souris, et j'entends cette phrase, il faudrait écrire un roman sur Galland, tellement il est formidable cet homme, et nous devrions l'écrire. Et enfin, il faudrait que quelqu'un l'écrive sur cette période-là, ces quelques mois où il erre à la à la recherche d'un manuscrit perdu. Et Aboubakar Shraibi renchérit, qui est le grand spécialiste actuel du Bénin. Oui, il faudrait absolument le faire.
Vous avez levé la main ou pas?
Comment?
Vous avez levé la
main?
Non,
je suis restée petite souris. J'étais avec mon mari, j'ai dit, tu crois que je peux aller leur dire que je l'ai écrit? Il me dit, bah oui, vas-y. Alors après, je suis allée les voir. Parce que moi, comme ancienne universitaire, j'enseignais le latin en Sorbonne. Je suis très respectueuse des universitaires. Et en fait, j'ai la même séparation en moi entre la savante et la rêveuse, quoi. J'étais savante en latin. Bon. Enfin, savante est un bien
comme
grand
galant. C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup pour le personnage d'Antoine Galant.
Et quand j'ai commencé à écrire des romans, j'avais presque honte d'avoir écrit des romans avec la fantaisie. Mais je suis quelqu'un qui suit comme lui, si je peux me permettre cette comparaison. Je pratique la fantaisie avec rigueur et la rigueur avec fantaisie. Mais les Galandiens, ce qu'il écrit, il existe une véritable société.
Une communauté autour d'Antoine Galant.
Mais ils ont cet amour fou. Et c'est le type qui fait ça. Parce qu'il est tellement allumé. Parce que lui aussi, enfin, je veux dire, quand il commence à apporter à sa protectrice, Madame Do, les traductions des contes. Bon, il dit, ce serait drôle, quoi. C'est juste pour ça. Et moi, quand j'ai commencé à écrire des romans, j'étais quand même en train d'écrire une thèse sur le vocabulaire de la notion du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. J'ai trouvé ça très drôle d'écrire un roman. Et pour mon premier roman, Le Nabat, qui a eu un énorme succès, je me suis dit, mais ils sont fous. Et il y a toujours, de trouver ça bien, il y a toujours ça chez moi. En même temps, vous voyez, je me dis, quand les gens trouvent ça bien, ça n'arrive pas toujours. Hein. Bon, soyons modestes. Mais je me suis juste raconté une histoire, comme quand j'étais petite dans mon lit. Ah ben c'est vrai, ça les fascine. Alors je prends ça comme un cadeau de la vie. C'est-à-dire que en fait, cette enfance où je vous ai parlé, m'a laissé enfant. Et je ne regrette pas du tout cette enfance qui a été pourtant très dure, parce que c'est mon terreau matriciel et c'est ma nuit.
C'est ce que j'allais dire, Irène Frain, c'est votre nuit. En exergue de votre livre L'or de la nuit, vous citez des entretiens entre l'auteur Michel Butor et Georges Charbonnier en 1967. On écoute un extrait archive de La Voix de Michel Butor.
J'ai toujours été fasciné par la construction de ce livre. La façon dont tous ces contes qui viennent, on le sait de très loin, il y en a qui viennent de la Grèce, il y en a qui viennent de la Chine, eh bien, la façon dont tous ces contes ont été rassemblés dans une forme très puissante, dans une forme fascinante. Tous ces contes ont été rassemblés à l'aide d'un thème fondamental qui est extrêmement riche. La puissance du récit, la puissance du conte contre la mort. Scheherazade, tous les matins, gagne sa vie, suspend sa condamnation à mort en racontant. Et chaque fois, elle réussit par ses paroles à conquérir une journée de plus. Eh bien, ce thème a considérablement impressionné beaucoup de grands écrivains européens, en particulier Proust déclarait qu'il avait voulu, à la fin du temps retrouvé, il déclarait qu'il avait fait en quelque sorte les mille et une nuits de son temps.
La voix si délicate de Michel Butor en 1967 que vous citez en exergue de votre livre, Irène Frain, tout écrivain est Scheherazade, tout écrivain a en lui une menace de mort. Il parle aussi, Michel Butor, de la suspension de cette menace-là au petit matin et de sa fascination pour la structure, la construction des mille et une nuits avec ce récit enchâssé de Scheherazade qui raconte une histoire toutes les nuits au sultan qui s'est promis de tuer toutes les femmes de son entourage à la suite de sa grande colère contre un adultère, et Scheherazade qui est venue prendre la place comme de toutes ces femmes-là et qui ne se fait pas tuer parce qu'elle raconte tous les soirs et tient le sultan en haleine. Cette construction-là, ce suspens de la mort par le récit, c'est une invention de Galant?
Alors, je crois que c'est dans le récit cadre des Mille et Une Nuits, mais je crois qu'il a été profondément séduit par cette suspension. Lui-même avait vécu dans la menace de la mort enfant, de la famine. S'il n'y avait pas eu ce chanoine, il serait vraisemblablement mort très jeune. Telle était la misère à la fin du règne de Louis XIV, avec tous ces phénomènes climatiques aberrants qui ressemblent à ceux de notre époque, et puis l'oppression Louis XIVienne, où il y avait une majorité de la population qui était quand même oppressée de façon effarante par le pouvoir des puissants et tout ça. Et moi-même, c'est pas hasard, j'étais donnée mourante à ma naissance, et après il y a eu cette mère rejetante. Donc l'enfant que j'étais visiblement sentait cette menace de la mort. J'ai eu un épisode d'amnésie, et j'ai eu un épisode d'autoparalysie qui était des appels au secours à l'extérieur, qui ont très bien fonctionné d'ailleurs. Et comme me l'avait dit ma mère un jour, on arrosait des plantes, et j'avais arrosé les cactus dans le jardin, et elle m'avait dit, mais tu ne te dois pas arroser ces plantes, c'est des vivaces. Et j'avais dit, des vivaces, qu'est-ce que c'est? Elle m'avait dit, c'est comme toi, c'est pas facile à mourir. Quand on entend ça, enfant, je vis pleinement. Vous avez dit tout à l'heure, je suis souriante, etc. Parce que chaque jour est une grâce, et je rêve que chaque jour soit une grâce. Alors évidemment, il y a les aléas de la vie, mais j'y crois toujours. Et l'écriture est ce moyen de réenchantement. Et je pense que j'ai trouvé, si j'ai écrit ce livre, c'est que l'histoire de Galland, quand j'ai commencé à m'y intéresser, évidemment, j'ai trouvé.
Un frère d'armes, presque.
Vous avez trouvé le mot.
Il y a quelque chose dans cette figure-là qui révèle aussi l'intensité, la frénésie de composition de ces mille et une nuits. Alors, vous avez dit, en fait, la figure de Scheherazade est déjà là dans le récit cadre. Moi, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est cet homme qui erre presque comme un gars affamé. Vous avez dit qu'il avait été proche de la famine, mais aussi comme quelqu'un un peu en manque de dope, de drogue. Il va comme chez des dealers d'histoire, des dealers de contes. Il y a l'Arménien, un personnage sur lequel on reviendra qui est Anna Diab. Mais pour être plus précis, Irène Frein, même si vous n'écrivez pas un essai sur les mille et une nuits, mais ces mille et une nuits sont composées d'histoires éparses qu'Antoine Galland va comme ça glaner ici ou là. Mais quand vous parlez de l'existence, de la préexistence du récit cadre, alors c'est-à-dire que le tissu est déjà...
Il est déjà là, et Michel Butor l'a très bien dit. Et ces contes viennent de diverses origines. Mais moi, ce qui m'a séduite, c'est que, en fait, toutes ces origines ont été réunies, vraisemblablement des gens qui connaissaient la route, au sens où disaient les hippies. Et d'ailleurs, c'était les mêmes routes qu'ont repris les hippies dans les années 60 et 70. Et si vous voulez, ce qui m'a engagée dans cette histoire aussi, c'est que la littérature n'est pas faite de littérature qui sont les unes à côté des autres, hermétiques, etc. La littérature est faite d'abord de textes qui sortent les uns des autres, mais aussi
comme les petits poupées
russes,
qui sont
colportés. Et ce qui est frappant dans les mille et une nuits, c'est que on reconnaît dans Sinbad l'Odyssée, mais il y a aussi des origines chinoises, des origines russes, des origines africaines. Et c'est ce que je crois de la littérature, c'est que la littérature nous rassemble à un moment où le monde se sépare. Ce moment-là, et je m'enthousiasme, vous m'entendez certainement dans ma voix, je m'enflamme. Ce moment-là des littératures mondialisées, mondialisantes, peut nous sauver. Et nous allons gagner notre survie sous la coupe, alors qu'au-dessus de nous, il y a le cimetière et le cimetière des dictateurs. Nous pouvons nous sauver à travers la poésie, à travers le roman, à travers tous ces, peu importe le genre, à travers tous ces processus de réenchantement sincère et nourris de la volonté profonde de faire du beau. Et ce beau, unique qu'est la littérature, parce que le beau unique de la littérature, c'est que c'est le vrai de la vie qui est caché et qui sort avec la littérature, ce qu'on cache sous le tapis. Et là, c'est pour ça que le soir, quand nous lisons un beau livre, il peut être tragique, il peut être terrible, eh bien, nous avons aussi, nous savons que nous avons gagné notre jour prochain. Et si nous nous y mettons collectivement, avec la ferveur, etc., dans cet acte de résistance, eh bien, nous avons encore une chance contre le sabre.
De voir le soleil se lever.
Avec cette énergie, mais notre énergie est peut-être plus forte. Scheherazade, une femme, l'a emportée.
On va écouter la voix de Bernard Héberger qui a consacré un ouvrage à la figure de Anna Diab. Anna qui intervient dans votre roman Irène Frein, c'est un des dealers de la grande cam de contes à Antoine Galland.
On va pas dire de laquelle façon.
Il deal des contes.
C'est lui qui va résoudre l'histoire du manuscrit perdu.
Mais... En tout cas, il y a quelque chose qui apparaît avec cette figure d'Anna Diab qui est un puits voilà auquel va s'abreuver Antoine Galland de nouveaux contes. C'est l'idée d'un aller-retour entre l'Orient et l'Occident, davantage en forme de cercle ininterrompu qu'en forme d'emprunt. On écoute la voix de Bernard Héberger.
Le problème que posent les contes que Hannah a raconté à Galland, c'est que il y a un débat entre spécialistes des Mille et Une Nuits. Il y a ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, ces contes doivent avoir des origines arabes et orientales, même si on n'a pas trouvé les sources. Et il y a de plus en plus de spécialistes qui disent que ces contes-là, lorsqu'on arrive à repérer des structures, à reconnaître des thématiques, eh bien, ces structures, ces thématiques sont occidentales. Et je crains que je donne des arguments aux tenants de cette thèse, puisque Hannah, quoique écrivant en arabe, quoique imprégnée dans cette culture des contes, quoique ayant un vocabulaire politique ottoman, etc., etc., quand il raconte des histoires, ce sont des histoires qu'il tire toujours de la littérature populaire européenne, des histoires, des contes à dormir debout qu'on racontait en Europe cette époque. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça vient de sa culture chrétienne maronite, mais ça vient sans doute de sa fréquentation des marchands marseillais à Alep, et peut-être aussi que ces histoires européennes avaient plus pénétré la société syrienne que ce qu'on a imaginé jusqu'à présent.
Des innombrables contes qu'Anna avait entendus à Alep, ceux qui l'avaient le plus impressionné mettaient en scène un personnage qu'un maléfice avait métamorphosé en pierre, ou en un objet insignifiant. Mouchoir, peigne, lampe à huile, marmite, laisse de chameau, crachoir, cure-dent, plume au vent. L'imagination des conteurs était sans limite. Se retrouver réduit à la condition d'objet lui avait toujours fait l'effet d'un sort beaucoup plus effroyable que la mort. D'autant que les victimes du sortilège n'étaient pas forcément arrachées à ce destin atroce par un contre-sortilège ou l'intervention d'un bon génie. Soit que la fatalité s'y fût opposée. Soit que le conteur les eût égarés dans les méandres de son récit et abandonnés aux oubliettes de la narration. Mais qu'importe la cause, à la seule idée qu'un jour, un magicien puisse ainsi l'ensorceler, Anna n'endormait pas de la nuit. Tel fut malheureusement l'état où il se vit réduit pendant les 48 heures que Lucas et lui passèrent à Versailles. À l'instant où il franchit les grilles du château, il fut dépossédé de son nom. On ne l'appela même pas le valet de Monsieur Lucas. Au mieux, il fut le jeune homme, le porteur de cage, l'oriental, le chrétien maronite, le maronite d'Alep, le maronite de Damas, le musulman. Il crut parfois entendre l'eunuque. On le présenta, ou plutôt on le montra, on l'exhiba, à des dizaines de gens, mais personne ne s'adressa à lui. Ou si on le fit, ce fut par l'entremise de Lucas. Il se crut transformé en chose.
On On vient d'entendre un extrait de votre livre « L'or de la nuit », Irène Frein, et juste avant, une archive du chercheur Bernard Héberger en 2014 sur France Culture dans l'émission Culture d'Islam. Cette figure de Hanna Diab est à la fois celui qui va procurer les nouveaux contes à Antoine Galland, mais on l'entend ici chosifié à la cour de Versailles, ignoré, méprisé, mis de côté. On ne s'adresse à lui que en passant par Paul Lucas, ce qui rend extrêmement trouble la circulation des histoires. C'est qu'elle n'est pas que magique, cette circulation des contes.
Non, il y a de la cruauté. Dans ces sociétés louis XIViennes, c'était très important pour moi de la montrer. Il a laissé son témoignage 55 ans après, Hanna. Bernard Héberger l'a traduit. Et Hanna a laissé entendre entre les lignes un certain nombre de choses. Et il a d'ailleurs pardonné, il a demandé à Hanna de le pardonner ce qu'il avait caché. Mais on peut très bien voir ce qui lui est arrivé. Moi, je pense qu'il a même subi à Versailles pendant ces deux jours des abus sexuels assez violents. Et l'Orient et l'Occident, la rencontre, ça a été ça. Mais Hanna Diab, c'est un homme de la route. Et c'est lui qui a fait la synthèse entre ce qu'il avait entendu sur la route et qui peut venir, en effet, comme le dit Bernard Héberger, de l'Occident. Pourquoi pas ?
Ça, ce qui est assez intéressant, mais presque qui peut retourner des façons d'imaginer les choses plus contemporaines, c'est que, selon Bernard Héberger, les histoires qui ont cours à Alep fin 17e, début 18e, qui sont ensuite racontées à Paris, proviennent peut-être d'histoires venues d'Europe, réinterprétées à Alep, re-racontées à Paris, retournées dans le monde oriental. C'est un cercle infini.
Alors, c'est comme la nuit. La nuit est une grande lessiveuse. Et la route aussi. Et ça a toujours été comme ça. Et la route est un endroit magique, et c'est pour magique.
Mais aussi parsemé de violence.
Parsemé de violence, c'est qu'elle est, semblable à la nuit. Elle est la peur et la conjuration de la peur. Et donc, on fait sur la route imaginaire commun, mémoire commune, et le monde est fait de route. Et c'est aussi ça qui nous permet de trouver de l'espoir. Elle n'est pas que négative. C'est comme la nuit. On raconte d'ailleurs, on racontait souvent les histoires aux étapes de la route, quelles qu'elles soient, les hôtels, les caravansérails. Mais dans la littérature européenne, c'est pareil. Jacques le Fatalis, c'est pareil. On s'arrête dans un hôtel. On raconte. Et ce que je voudrais dire aussi sur Hanna Diab, c'est qu'il a vu Versailles comme personne ne l'a vu. Parce qu'il a considéré comme chose, il a pu rentrer dans des endroits du palais et donner un témoignage sur Versailles comme s'il était rentré avec une caméra GoPro. Et ça, c'est fantastique. Et ça en dit très long sur le pouvoir Louis XIVien et l'organisation de la cour. On ne l'a jamais vu, mais quand on...
il l'a vu.
Lui, il l'a vu et il nous l'a transmis. Parce que finalement, il a dicté son récit, qu'on a retrouvé d'abord au Caire, ensuite au Vatican, et aussi les bibliothèques. C'est un endroit fabuleux, c'est une grande aussi lessiveuse des soirs. Vive les bibliothèques.
On va écouter la voix de Karine, auditrice du Book Club. Elle vous a lu, Irène Frein, et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Irène Frein. J'ai eu la chance de lire en avant-première L'Or de la Nuit et j'ai été embarquée dans la trame romanesque, dans votre écriture que j'ai trouvée limpide, mais aussi par les différentes pérégrinations des différents personnages. Petit coup de cœur d'ailleurs pour Madame Do. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui était vrai et ce qui était de la fiction dans votre livre. Je trouve que c'est ce qui en fait le charme. Vous dédicacez le livre à Boualem, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Merci pour votre réponse Irène Frein et bonne journée à tous.
Très simplement.
Merci Karine, pardon, je vais juste citer Karine, la librairie dans laquelle elle travaille, c'est la librairie Le Fayet à Rennes. Irène Frein, voilà, c'était cadeau.
Bonjour la Bretagne. Et très simplement, je venais de trouver mon épigraphe, la phrase de Butor, et le soir même, j'ai appris l'arrestation de Boualem Sansal, avec qui j'avais passé 3 journées merveilleuses l'an passé à Nice. C'est la grâce de son regard, sa générosité, son inventivité, et il m'a évoqué toute la nuit dans toute sa dont on vient de passer dans la nuit de l'Algérie, il avait trouvé la lumière, etc. Je me suis dit c'est pour Boualem, et j'ai continué mon livre en rêvant tous les soirs qu'il soit libéré le lendemain. Et
je rappelle votre épigraphe, tout écrivain est Scheherazade, tout écrivain a en lui une menace de mort, c'est Butor à propos des Mille et une nuits en 1967.
Oui, il est Scheherazade, avec toutes les histoires qu'il a racontées, peu importe que ce soit une femme ou un homme, on s'en fout, c'est le geste de la littérature contre la dictature, la littérature qui est résistante, ça m'a paru relevé de l'évidence.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine, l'heure est venue de consacrer un moment de cette émission au livre destiné aux plus jeunes d'entre nous, avec vous Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui Mathilde, vous nous parlez d'un album qui traite d'une émotion qui est aussi un sujet classique des histoires pour enfants, la colère.
Eh oui Marie, mais si le sujet est classique, en effet, l'album dont je vous parle aujourd'hui est singulier. Il est signé Beatrice Alemania, autrice d'une œuvre foisonnante. Il s'intitule La Grande Cradolas, princesse du pays de Bou, et apparu à l'école des loisirs. C'est l'histoire d'une petite fille, Yuki. Un jour, comme tous les autres, son grand frère, Sen, vient la chercher à la sortie de l'école. Et comme tous les jours, le garçon se contente de prendre son cartable, de lui tendre nonchalamment les clés de chez eux, avant de se renfermer dans sa capuche. Sen ne m'aime pas du tout, c'est évident, pense la petite fille. Quelques mètres plus loin, sur le chemin, elle tombe sur une bouche d'égout qui, comme tous les jours, semble la regarder de travers. Et ce jour-là, Yuki laisse les clés de la maison tomber dans la bouche. La petite fille décide alors de se faufiler discrètement par le trou noir des égouts, descend une très longue échelle pour atterrir dans un lieu humide où elle fait la connaissance d'une grosse chose dégoulinante de saleté dont les cheveux ressemblent à des buissons secs et les mains à des racines. J'ai nommé, pour reprendre les mots avec lesquels la dite chose se présente, la suprémissime grande cradolas du pays de Bou, cradouille pour les intimes. Yuki la suit, un peu tremblante, et arpente bientôt avec elle les méandres de ce sombre royaume. Elle y fait la connaissance de ses habitants, les culpiboulous, mini-machins dont le passe-temps consiste à faire culpabiliser ceux dont ils croisent la route, y découvre le lac cachette dans lequel on peut sauter lorsqu'on a fait une bêtise et où personne ne peut nous voir, le musée des rejetés qui recueille tout ce que les gens jettent lorsqu'ils sont en colère, ou encore l'épicerie rage où l'on peut goûter la colère sous forme de boisson. À la fin de l'histoire, Sen, le grand frère, vient chercher sa petite sœur au pays de Bou et lui dit « Si tu restes ici, qui est-ce que je vais aller chercher à l'école, moi ?» Phrase qui libère la fillette, Yuki fait ses adieux à son Altesse Cradolas et rentre enfin chez elle avec son frère.
Et vous, vous avez été saisie, Mathilde, par l'émotion qui vous a saisie justement dès la scène d'ouverture de cet album.
Oui, Marie, émotion qui a quelque chose d'une réminiscence parce qu'elle fait ressurgir des sensations de l'enfance. C'est à la fois une petite et une très grande chose qui atteignent la petite fille dans la scène inaugurale. Son grand frère, retranché sous sa capuche, ne dit pas un mot. Ce silence, la petite le ressent comme synonyme d'un désintérêt et même d'un désamour. Et ce qui déclenche l'histoire, c'est la tristesse associée à cette idée-là. Tristesse qui se traduit par un geste sans queue ni tête, jeter les clés de la maison aux égouts. Il y a quelque chose dans ce prologue qui me semble d'une infinie justesse. La colère qui s'empare de nous par moments est par essence irrationnelle, informe, étrange, gluante, marécageuse, comme est informe la tristesse dont elle est toujours l'envers. Cette tristesse, cette colère en revers, chez les enfants comme chez nous tous, peut être véritablement sombre. La beauté de cet album tient entre autres à ce qu'il la considère dans sa noirceur, sans détourner le regard. Je trouve aussi très juste ce qui se dit en creux des relations entre frères et sœurs, parfois teintées de cette noirceur-là.
Et de quelle manière est-ce que l'album parvient à atteindre cette justesse selon vous ?
Le prodige du livre, à mon sens, tient à l'expressivité plastique des images, à commencer par celle de cradouille aussi dégoulinante et changeante qu'est la colère de Yuki. Beatrice Alemania utilise différents outils, parmi lesquels la craie grasse et le pinceau, qui donnent à ses dessins un aspect à la fois aqueux et gras. Dans l'une des entrées de l'Alphabet Alemania, livre paru en 2023 aux éditions de La Partie, la spécialiste de littérature jeunesse Sophie van der Linden écrivait « S'il est une couleur qui domine dans ses livres, c'est le brun, dans toutes ses nuances d'ocre et de sienne. » Couleur de terre, celle de l'enfance, de la peinture, comme une patouille dans la boue. » Fin de citation. Ce nouvel opus qui met à l'honneur le pays de Bou, justement, en est une parfaite illustration. Comme souvent aussi chez l'autrice, on trouve une variation sur le thème du dégoût. Ici, c'est la colère elle-même qui provoque de manière diffuse la sensation. Il faut enfin souligner la poésie du texte, par exemple la métrique de cette belle phrase de Yuki « Quand je suis en colère, je crie, je tape des pieds et je pleure, je m'en mêle à l'intérieur. »
Et c'est un album qui met aussi à l'honneur une couleur fluo. C'est un usage très à la mode dans les albums pour enfants depuis quelques années, Mathilde.
Oui, absolument, Marie. Quel sens donner à cet usage du fluo que l'on voit fleurir sous plein de formes dans les livres d'images ces dernières années? C'est une question à laquelle je consacrerai peut-être un jour une chronique entière. En tout cas, dans cette histoire, Yuki porte une veste jaune fluo qui contraste tout du long avec les bruns et noirs qui dominent le pays debout. Le fluorescent, c'est par définition la propriété qu'ont certains corps d'émettre de la lumière. Le fluo, dans cette histoire, c'est la propriété de cette petite fille qui, au plus noir de sa colère, continue toujours de renvoyer de la lumière comme un point scintillant auquel on s'accroche au plus profond de la mélancolie. Cette fluorescence, autrement dit, fait sens et en cela, elle nous ravit.
Cœur sur cette chronique, encore une fois. Quel est le titre de ce livre ?
La grande Cradolas, princesse du pays debout, très beau titre. C'est signé Beatrice Alemania à l'École des loisirs.
Merci beaucoup Mathilde. Lecture jeunesse, franceculture.fr. Le Book Club se termine toujours par une recherche. Nous cherchons de la musique dans les textes. Irène Frein, alors on n'en a pas vraiment trouvé dans votre livre « L'heure de la nuit », mais on est allé en chercher dans un autre livre, un livre qui s'appelle « Tous les matins du monde » de Pascal Quignard, paru en 1991. Et on y est allé parce que c'est la même période historique. C'est vrai que cette, même, que cette composition...
Et alors j'aurais mis Galant en juste corps fluo.
Donc on n'a qu'à s'imaginer Galant composant les mille et une nuits en juste corps fluo et on termine par un extrait du texte de Pascal Quignard. Ils descendirent les marches de la cabane et ils se dirigèrent vers la maison. Monsieur de Sainte-Colombe confia à Monsieur Marais la viole de Madeleine. Elle était couverte de poussière. Ils l'essuyèrent avec leurs manches. Tandis que M. Marais ôtait sa cape noire et sa peau retournée et les jetait par terre, M. de Sainte-Colombe fit de la place et mit au centre de la cabane, près de la lucarne par où on voyait la lune blanche, la table à écrire. M. de Sainte-Colombe entr'ouvrit le cahier de musique en maroquin tandis que M. Marais versait un peu de vin cuit et rouge dans son verre. M. Marais approcha la chandelle du livre de musique. Ils regardèrent, refermèrent le livre, s'assirent, s'accordèrent. Monsieur de Sainte-Colombe compta la mesure vide et ils posèrent leurs doigts. C'est ainsi qu'ils jouèrent les pleurs. À l'instant où le chant des deux violes monte, ils se regardèrent. Ils pleuraient. La lumière qui pénétrait dans la cabane par la lucarne qui était percée était devenue jaune. Tandis que leurs larmes lentement coulaient sur leur nez, sur leurs joues, sur leurs lèvres, ils s'adressèrent en même temps un sourire. Ce n'est qu'à l'aube que M. Marais s'en retourna à Versailles. Merci beaucoup Irène Frein.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « L'or de la nuit » paru aux éditions Julliard. Au son aujourd'hui, c'était Élise Le, à la réalisation Vivien Demeyer. On peut remercier toute l'équipe de Book Club, Léa Weiss-Gruss, Luc Vauvillier, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Louise Hott et Alexandra Laibegovitch, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club. Nous recevons parfois des demandes tout à fait justifiées. Comment faire partie de la communauté du Book Club quand on n'a pas Instagram? Écrivez-nous et puis on va se débrouiller pour trouver un moyen. Voilà, avec Alexandra Laibegovitch.